Transhumance, deuxième heure.
Comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, et pour en savoir un peu plus sur la personnalité d'El Kahina, nous sommes rendus dans la petite localité de Shri'a, à la rencontre de M. Chebbouki. Mohamed Chebbouki est né en 1916 à Thallija, dans la région de Tébessa. En 1934, il débute ses études secondaires à l'université de la Zitouna. De retour à Tébessa en 1942, il s'adonne à l'enseignement et la littérature. Plus tard, il fut désigné à l'école de Batna, où il rencontra le poète El Khalifa. Interné dans un camp en 1956, c'est là qu'il composera la plus grande partie de ses œuvres poétiques, dont l'incomparable Jazeiruna. El-Hajj Chebbouki, il existe des versions assez contradictoires concernant la réalité historique et la personnalité de la Kahina. Pouvez-vous nous donner quelques éléments d'information sur ce personnage, sachant que vous avez entrepris une recherche sur cette dame qui a marqué l'histoire des Aurès?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tislim kabira. هذه الشخصية التي الجزائرية البربرية التي تسمى الكاهنة.
Cette personnalité algérienne berbère nommée la Kahina, qui a vécu dans ces montagnes, la chaîne de la Montagne Blanche, était, d'après les informations que j'ai pu recueillir, une chef de guerre qui a hérité de ce titre à la suite de la mort de son époux, titre qu'elle a gardé pendant plus de 20 ans. Elle prit part à deux grandes batailles contre les armées musulmanes. La première de ces batailles est la bataille de l'Oued Nini, qui a eu lieu dans les environs de Mskiana, où elle vainquit le général Hassan ibn Nu'man et fit un nombre important de captifs au sein de cette armée, armée qui se replia au-delà de la frontière tuniso-libyenne. Quelque temps après cette victoire, elle libéra les prisonniers et leur permit de rejoindre le camp de Hassan ibn Nu'man, qui campait en territoire libyen, à l'exception d'un jeune homme du nom de Khaled, à qui elle fit manger un pain d'orge qu'elle confectionna de ses mains propres et qu'elle partagea, selon l'ancienne coutume berbère, entre lui et son propre fils. Après qu'ils eurent mangé ce pain, elle leur dit « À partir de ce jour, vous êtes frères. » Le khalifa Abdel Malik ibn Marwan intima à Hassan ibn Nu'man lors de rester en campement à Barqa, lui promettant de lui faire parvenir des renforts. Il resta donc en garnison pendant 4 années, où il construisit des qsour et certains édifices qui ont pris son nom, Sul Hassan.
جيش حسان بن نعمان عندما وصل برقة جاءته الأوامر من الخليفة الإسلامي عبد الملك بن مروان قال له أمكث هناك حتى أبعث
La deuxième expédition de Hassan ibn Nu'man se fit cette fois par le sud des Aurès, où eut lieu une bataille décisive au lieu dit Bir el-Atr. La Kahina ayant été informée de l'avance de ce dernier, entreprit de marcher à sa rencontre, et là, les deux armées se rencontrèrent sur les hauteurs de Bir el-Atr.
حتى وصل إلى هذه القرية التي تسمى الآن بير العاتر فسمعت هي بالجيش فخرجت تستقبله بجيشها وحسان بن نعمان كان ماهرا في العسكرية ونظامها حال بينها وبين جبل أوراس والتحمت المعركة في جبل بئر العتر، فانهزمت انهزام كبير. هي وكان من عادتها إذا وقعت حرب بينه وبين جيش هاجم عليها.
Elle avait coutume, avant d'engager une bataille, de se faire creuser un puits dans lequel elle s'adonnait à la divination. Elle eut ce jour-là, selon la légende, la vision qu'elle serait vaincue et en informa ses officiers quant à l'issue fatale qui les attendait et que, malgré tout, il fallait jusqu'au bout livrer bataille, ce qu'ils firent sans exception.
بعد العملية خرجت مدهوشة قائلة لرؤساء الجيش جيشها إننا هذه المرأة سننهزم ولكن يجب أن نقاتل إلى آخر رمق، وطلبت من ابنها ثالث هذا قيس.
Après la défaite, elle chargea son fils adoptif Khalid d'un message à l'intention de Hassan ibn Nu'man, lui demandant de prendre ses deux fils dans ses rangs, fils qui devinrent plus tard l'un lieutenant d'Ibn Nu'man et l'autre gouverneur civil des tribus berbères des monts de Tébessa. En ce qui concerne la mort de la Kahina, les historiens divergent. A-t-elle été tuée à la bataille de Bir al-Atr? Ou bien a-t-elle été emmenée avec l'armée musulmane en Tunisie? Ou bien encore tué dans un endroit appelé Al-Jem? Nous n''avons pas d'informations précises à ce propos.
والآخر كان حاكما مدنيا على البرابر التي تسكن هذه الجبال، هذه الجبال التي تسمى جبال تبسع.
هذا بعد الانهزام.
بعد الانهزام. بعد الانهزام. أما هي فقد اختلف بعض المؤرخين هل قتلت في بئر العاتر أو أخذها الجيش الإسلامي ودخل بها أرض تونس ودخل وقتلها في مكان يسمى الجم في بلاد تونس. هذا ما أعرفه بصفة خسارة مختصرة عن هذه الرئيسة أو الحاكمة البربرية.
حاج شبوكي، quelle était sa croyance religieuse؟
قيدته الدينية وقع فيها خلاف. بعض المؤرخين يقولون انها انها نصرانيه متدين
بالديانه. Certains historiens disent qu'elle était chrétienne, d'autres qu'elle aurait embrassé l'islam, mais en réalité elle était restée juive de religion.
حسب ما راينا في بعض الكتب انها ليست نصرانيه بل تكون يهوديه.
يهوديه
يعني. يهوديه
هذا هو. ويعني المكان عند وين دفنت ما كانش لحد
لا
الان.
لا لحد الان
ثم برضه يعني
لا في لا.
Oh.
après cette incursion dans l'histoire de l'antique Tébessa, qui fut le théâtre d'une multitude d'événements en contact avec de nombreuses civilisations et les échanges plusieurs fois millénaires qu'entretenait cette ville avec les autres cités méditerranéennes, nous renseigne sur l'importance qui fut la sienne du temps de sa splendeur. Les vestiges qui subsistent un peu partout pourraient être, s'ils faisaient vraiment l'objet d'une prise en charge, un atout non négligeable, et ce malgré l'état d'abandon dans lequel se trouve ce patrimoine. Pour en parler, nous avons rencontré M. Msralji Abdelali, professeur de musique, auteur-compositeur, passionné lui aussi d'histoire, qui porte sa ville dans son cœur et vibre en mélomane qu'il est, à l'endroit des dissonances. La région de Tébessa, nous ne le répéterons jamais assez, recèle des sites archéologiques d'une grande richesse, certains répertoriés, d'autres non encore répertoriés. À votre avis, Monsieur Msralji, pourquoi ce patrimoine n'est pas pris en charge ?
Il y a encore des vestiges et les Tunisiens se sont occupés plus que ça, puisque nous trouvons des vestiges au musée du Bardo à Tunis. Et les gens de la ville ou les conservateurs de Tébessa, ou depuis tout le temps d'ailleurs, même les Français ne sont pas occupés d'une manière totale et globale et conséquente. Donc nous avons plus de renseignements dans les musées de Tunisie qu'en Tébessa, parce que Tébessa faisait partie de la Numidie, comme vous le savez tous. Les Grecs, les Romains ont toujours appelé cette région soit Libique, Mauritanie, Numidie. Elle a eu beaucoup d'appellations depuis la nuit des temps.
Et toutes ces civilisations sont passées par la ville de Tébessa.
Absolument, les vestiges sont là, ils sont témoins de ces périodes. Telles que vous avez visité, il y a des choses qu'on n'avait certainement pas visitées, telles que le pont romain qui existe et qui est ignoré pour l'ensemble de la population de Tébessa. Et c'est pourtant quelque chose de merveilleux. C'est petit. La construction est formidable. Il y a le lac Duc. Il y a un lac Duc qui passe à partir du site de l'amphithéâtre, qui traverse un quartier et qui est délaissé. Il y a un mépris total à tous les niveaux. Et notre histoire a subi de diverses agressions, entre autres l'incurie, je le dis, ou la culture, avec deux C, acculturé. Ouais. Donc, si nous ne prenons pas conscience du danger qui nous menace, qui menace cette civilisation, ce patrimoine extraordinaire, et qui, d'après, je ne suis pas sûr, qui a été l'UNESCO a voulu que Tébessa soit les vestiges de Tébessa, soit patrimoine mondial, de l'humanité. Oui. Et je pense que la porte Caracalla est en voie, ou ça y est peut-être, je n'en sais rien, je m'excuse parce que je n'ai pas encore d'informations sur ce sujet. Mais de toute manière, comme le temple de Minerve, qui a son consort, si je peux dire, à Nîmes, en France, qui est absolument le même, et le temple de Minerve à Tébessa est beaucoup mieux conservé, je ne sais pas par quel hasard, mais il est conservé.
Ah, c'est le hasard de la culture.
Nous avons à Tébessa plusieurs martyrs tels que Crispine, où la basilique est faite à son... Elle a été martyrisée ici à Tébessa. Donc
il faut dire que c'était une sainte...
Sainte nord-africaine, si j'ose dire.
Sanctifiée par la suite d'un martyr.
Elle n'est pas la seule, parce que cette région, les Berbères ont fourni à Rome, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'on fournit beaucoup d'idéologues,
d'évêques, de martyrs
et même, je pense, j'ai lu quelque part rapidement des papes.
Oui, quelques papes.
Absolument. Donc c'est ça, l'histoire est là. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux, madame a vu ce phénoménal patrimoine qui appartient peut-être à l'humanité, qui nous appartient, nous, Tébessiens, et nous, les Tébessiens, ou les Algériens, d'une manière globale, nous n'avons pas pris conscience de cette chose magnifique qu'est les vestiges intramuros sur toute la région, du côté de Morsod, du côté de Malabé, qui se trouve à 35 km de la région. Il y a des vestiges extraordinaires qui ne sont pas exploités. Ils ne sont pas sauvegardés. Et si vous êtes passé certainement du côté de l'amphithéâtre, Vous avez vu cette incurie que j'appelle incurie, cette méchanceté, cette bêtise humaine de venir mettre sur ce site des marchands de plastique, ça m'écœure, moi je vous le dis franchement, et je fais un appel ici, puisque vous êtes là et je suis très heureux. Et cette émission est extraordinaire dans le sens où elle fait prendre conscience aux gens de leur algérianité, si je veux, si j'ose, ou leur berbérisme, je ne sais pas comment je l'expliquer,
leur patrimoine de manière générale.
Parce qu'on peut, à partir de cette culture et de cette histoire, nous pourrons avancer. C'est connaître son histoire pour aller vers l'avenir. Ce n'est pas possible de faire comme ça. L'histoire de l'Algérie n'a pas commencé seulement avec les invasions des Arabes ou des Turcs ou des Français. Elle est beaucoup plus loin que ça. Nous avons notre culture, nous avons nos martyrs, nous avons nos... Donc, à partir de là, je fais un appel à travers vous que les gens, c'est-à-dire ou les autorités ou les associations... je sais qu'il y a une association... je ne suis pas avec eux parce que... Il ne considère pas que mettre en valeur ces choses, en parler. Vous parlez avec. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je vous le cite, pour voir le sens, un enseignant qui me dit Caracalla est un général byzantin. Monsieur, je vous dis, ce n'est pas un général byzantin, ce n'est pas possible. Vous êtes quoi? Il me dit, je suis enseignant. Où? Dans un lycée. C'est formidable. Ça, c'est des choses qui, à la longue, deviennent. Je suis désolé, je suis navré. Je suis navré parce que il faudrait qu'on avance, qu'on comprenne que ce peuple, ce magnifique peuple qui congénitalement peut-être qui a des aptitudes extraordinaires et qui à travers son histoire millénaire, cette magnifique ville qui a plusieurs
donc
fois millénaire.
C'est un patrimoine qu'il faudrait réhabiliter. Donc réhabiliter. C'est vrai que c'est un travail de fond, de sensibilisation,
absolument,
d'information qu'il faudrait entreprendre
absolument,
pour essayer de commencer
absolument.
À apporter des correctifs
absolument.
Ce qui s'est passé. Donc, est-ce que je voudrais aussi revenir avec Madame Zenadi
oui.
Concernant les principaux vestiges qu'on trouve ici au niveau de Tébessaville.
Tous les vestiges sont importants.
Est-ce que vous pouvez nous les citer pour nos auditeurs?
Nous avons des vestiges qui remontent à l'époque, l'époque antique, c'est-à-dire lors de l'occupation romaine. Nous avons l'Arc de Caracalla qui a été édifié en honneur à ses multiples victoires.
Donc Caracalla, du nom de l'empereur.
Très bien. Il est de la famille de Septime Sévère. Nous avons des vestiges de l'époque romaine, de l'époque de la civilisation athérienne, de la civilisation capsienne, de l'époque turque, de l'époque musulmane, byzantine. Pratiquement toutes les civilisations qui ont traversé l'Algérie ont été touchées par la région de Tébessa. Tébessa était un comptoir, le comptoir phénicien, comme l'avait dit M. Mespalji. À l'époque de la parution du christianisme, dans cette région, il y a eu d'abord la clandestinité de cette religion.
Oui, comme partout.
Qui était d'abord dans des catacombes. Et nous avons des vestiges de ces catacombes. Comme avant la construction de la basilique de Sainte-Crispine, nous avons d'abord les catacombes, puis la construction de cette basilique en honneur de Sainte-Crispine qui a été martyrisée. Tous les vestiges, en principe, sont aussi importants les uns que les autres. Nous avons le vestige du marabout sans tête.
On a d'abord le temple de Minerve, si on veut rester dans la période antique.
Donc il est de la période païenne. Et il a été à chaque fois réutilisé à l'époque romaine, puis à l'époque peut-être byzantine, française. Nos archives ne remontent qu'à l'époque française. Il a été utilisé, il a eu plusieurs utilités publiques et... depuis l'époque française, c'est devenu un musée. En ce moment, nous emmagasinons plutôt des objets d'une grande valeur archéologique et très riche. Nous avons de la mosaïque, de la céramique, des bijoux de bronze, des bijoux en ivoire, des stèles, des statues de marbre, des sarcophages sculptés, du plus simple sarcophage jusqu'au sarcophage impérial, mmh. avec des motifs très riches en marbre. Et il y a beaucoup de curiosités à voir et à connaître.
On sait que pendant la lutte de libération nationale, les Aurès ont joué un rôle très très important.
Absolument.
Et les Aurès ont donné beaucoup de mal à l'armée française.
Absolument.
Ça reste
à toutes les armées, de toute façon.
À l'instar des autres régions d'Algérie, Tébessa possède à son tour un genre musical unique qui mériterait d'être mieux connu, car nous retrouvons dans ses accents l'authenticité de son terroir, la hauteur de ses montagnes et l'immensité de ses plaines infinies. Chant d'un peuple dont les paroles expriment les espoirs et les peines et l'âpreté de l'existence au quotidien. Chant à la limite du blues, mais d'un nom surprenant, tenez-vous bien, le rock rocky.
Thank you.
Donc toujours en compagnie de Monsieur Mesrelji, le Rokoroki de Tébessa.
Quand on veut parler de musique de Tébessa, quelle est la musique qui prédomine ?
La musique. L'influence de la musique sur les populations, c'est la musique est connue mondialement par tous les connaisseurs ou les musicologues comme étant un élément de vie, un élément vital. L'homme a commencé à chanter peut-être avant de parler. Il a soufflé dans un roseau ou dans
un
os avant de parler peut-être. Donc c'était un besoin. Quant à la musique chavia qu'on écoute maintenant, la musique kabyle, la musique tébessienne, malheureusement, ce genre de musique a été, comme je l'ai dit auparavant, comme l'histoire, il a été agressé par certains gens.
Genre ou Jean ?
Gens, des êtres humains. Mm-hmm. Hein? Donc pour la région de Tébessa, nous revenons à la région de Tébessa. Les influences des musiques naissent souvent là. Où est l'homme, avec ses besoins. Chaque être humain se trouve avec sa musique dans l'environnement qu'il vit. Donc, nous avons la musique des montagnes, la musique de la prairie, la musique. Et nous disons ici, par exemple, la musique Rakroki. Rakroki, c'est un genre de musique. Et de
disons
chant.
Que c'est le genre typique
de
la région de Tébessa.
De Tébessa, avec Hanchla, etc. Et
la chaîne
des Aurès, avec
des Aurès,
voilà. De notre montagne célèbre, Duken, etc. Jusqu'à.
Et Rakroki, ça vient de quoi ? Ça veut dire quoi ?
Eh bien, les historiens, le mot en soi est un mot, il peut être berbère, il peut être arabe. Rakroki, Rukoud, ça veut dire c'est l'eau stagnante, le chant berceur, si j'ose dire, si le mot est exact, je ne sais pas si c'est trouvé dans le dictionnaire, mais ça ne fait rien. Rukoud, c'est ça. Ça veut dire le chant lancinant, joli, qui amène vers le nirvana, comme disent certains. Donc, c'était un besoin. Ce besoin. Alors, nous avons le chant du chamelier, parce que dans la musique, il y a deux rythmiques. On appelle le houda, ça veut dire le galop du cheval.
Dans le rekoloki, toujours.
Dans toute la musique, dans toute
la
musique,
enfin, mais restons dans le patrimoine
oui,
de Tébessa.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Mais
il n'en sort pas lui-même. Il y a le khabab, c'est le cheval, je veux dire. Le houda, c'est le pas du chameau. Donc, c'est parti avec ce genre de rythme et avec une poésie ou des paroles ou des mots concernant des sentiments bien particuliers à des situations bien particulières. Parce que le chant a été toujours dit dans des circonstances bien déterminées. Soit, bien entendu, l'amour, la guerre, le gardiennage des troupeaux, le pastoralisme, etc.
Des fois la malvie aussi.
Absolument,
oui,
absolument.
On retrouve un peu comme une sorte de blues, de nostalgie dans le genre.
Absolument, et c'est pas dans toute la musique du monde, c'est toujours comme ça. Donc, la musique de la région, la région, il y a une musique qu'on appelle Tarah, ça fait Taraha. Le chant quand il est dans la plaine,
c'est
arythmique, c'est lent, c'est lancinant, c'est plus vocal qu'accompagné avec d'instruments. Il y a aussi le chant du chamelier qui traverse les caravanes qui partent des régions vers d'autres régions, soit d'autres chameaux, soit d'autres dânes.
Ils ont le pas qu'à danser du chameau.
Parce que là, il y avait il y avait des musiciens ou des chanteurs connus par la manière de conduire une caravane d'une certaine, à une certaine distance avec une certaine périodicité.
Et c'est chanté en arabe ou en berbère?
Souvent en berbère. Souvent
c'est,
en berbère.
C'est le chant chaoui.
C'est le chant chaoui. Souvent en berbère. C'est après qu'après avec l'arabisation, etc., les gens
mais
commençaient à avoir un dialecte.
Mais le chant chaoui, il est encore présent.
Il reste chez certains gens, certaines familles comme ça, qui le maintiennent grâce à Dieu peut-être, ou grâce à je ne sais pas comment. Mais il a tendance à disparaître tous les jours. Tous les jours, on en perd un peu. Nous sommes en train tous les jours d'enterrer quelques petites bibliothèques, quelques musicologues, quelques gens qui connaissent. On les enterre tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour ça s'épuisera, ça disparaîtra, et c'est dommage.
Quel est l'instrument le plus utilisé ici dans la région?
C'est le gaspa.
Le
gaspa, c'est le roseau. Il y a différents roseaux qu'on amène. Nous avons un super bouet d'ici, qui est à côté, avec la frontière tunisienne, qui s'appelle Sundus. C'est une région où les gens, le Kassab, vont là-bas dormir la nuit, chercher le roseau qui chante la nuit.
Oui, disons la tonalité,
adéquate.
Donc il y a des roseaux à plusieurs tonalités.
Absolument. Mmh. Par leur construction, par leur longueur, par le nombre de trous qu'on peut mettre. Et généralement, dans leur ensemble, le naï du chaoui ressemble à celui de la Chine. Ce n'est pas un problème, parce que c'était un des premiers instruments qui a été joué par l'homme. La flûte, on peut l'appeler autrement. Donc, c'est le bendir pour les rythmes. Le bendir, c'est une peau de mouton ou de chèvre, qui est sur un cadre. Vous connaissez le bendir, tout le monde, tous les auteurs connaissent ce qu'est un bendir.
Oui.
Tébessa, même ville, nous revenons, qui a perdu ce genre de musique et de chant, qui est très beau, il faut l'écouter, je ne sais pas, parce que c'est à la radio aussi de le passer de temps en temps. De temps en temps, parce que pour que les gens commencent à apprécier, on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on ne connaît pas, ou on peut en parler sans le savoir. Moi, j'adore ce genre de musique.
Quel est le chanteur dans la vie, puisque vous êtes musicologue, dans toutes ces années, ces 50 dernières années, qui ont entretenu ce chant?
Disons les plus représentatifs du genre.
Oui. La région ou les gens, les hommes, vous voulez parler
Oui, les chanteurs les plus
chanteurs.
Célèbres qui ont chanté ce genre.
Ressa Jarmouli, par exemple, qui est originaire de Khenchla, mais qui venait à Tébessa, parce qu'il a une voix extraordinaire, un homme extraordinaire. Et il y a des gens qui naissent comme ça par un siècle. Donc, il a été un des grands, sinon nous avons par Rakrouki, on l'appelle comme ça Rakrouki parce qu'il faisait ça, nous avons Bagar Hadda qui était sur partie de Soukaras, qui venait à Tébessa dans les mariages, etc. Ça. Et avec ça, nous avons, les gens oublient que nous sommes mitoyens à la Tunisie et que le patrimoine culturel ou le patrimoine est...
Oui, il y a quand même des influences.
Des influences, non seulement, mais... absolument pareil. Il y a des chants chaoui en Tunisie. Les gens ne le savent pas. Mais à 100 km, nous avons encore. Ils gardent mieux encore certaines tribus vers Gafsa, Gebs, ici dans les régions à 100 km d'ici. Ils gardent encore. Eux, ils ont, je ne sais pas si leur ministère, je ne sais pas quoi, ou les associations qui maintiennent encore ce genre de. Et ce patrimoine commun. Ils nous l'ont tout pris finalement, parce que nous l'avons délaissé.
Yes!
Concernant la ville de Tebessa, est-ce qu'il y a des associations qui essayent de préserver ce patrimoine, d'essayer de lui redonner un second souffle?
Oui.
Est-ce qu'il y a quand même des tentatives dans ce sens?
Oui, c'est vrai. Il y a une association qui est née il y a déjà en 1936, c'est une association pluridisciplinaire qui faisait un peu de politique, qui faisait le scoutisme, faisait le théâtre, la musique, etc. Et cette association existe toujours. Mm-hmm. Mais comme toutes les associations nous disaient, on n'avait pas les moyens, même pas, parce que pour étudier la musique, il faut, et je l'ai dit, je l'ai écrit dans un journal, je dis qu'il faut qu'il y ait un laboratoire, qu'il faut des musicologues, des linguistes, je veux dire, des gens qui reprennent. Et ça, il faut un appareillage, il faut les sonomètres, il faut un laboratoire véritable pour reprendre tout ce genre. Parce que maintenant, on ne peut pas écrire la musique chahoui, on ne peut pas l'écrire, transcrire par les notes. Parce que les espacements entre les notes sont différentes de la gamme occidentale diatonique. Donc nous avons besoin. Il est temps avant que des gens comme moi ou d'autres gens qui sont pas chers disparaissent. Et c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, qu'on est en train d'enterrer des connaissances et un savoir qui disparaît. Nous voulons revenir aux anciennes maîtrises, à la connaissance des sonorités, à leurs vibrations, à leurs technicité. Il faut qu'on revienne à la physique des sons, même
conserver tout ce patrimoine.
Oui, conserver dans des supports,
la transcription, l'écrit, l'enregistrement, les textes, etc. Voilà.
Oui. Monsieur Mesradi, oui. Justement, le problème de la musique chahoui ne s'est pas tellement transporté à travers tout le territoire. Donc, il y a un danger de disparition, justement, dans cette musique qui, j'ai le sentiment, hein, et c'est le mien, oui, que cette musique a été un peu, parce qu'elle est mal comprise, donc un peu méprisée. Elle est restée dans une région bien déterminée, c'est-à-dire dans les Aurès. Hein, oui, lorsqu'on parle de cette musique chahoui, il y a encore un danger qui la guette, c'est-à-dire sa disparition. Mais est-ce que dans la région où elle existe, est-ce qu'elle est entretenue? Est-ce qu'elle est sauvegardée?
Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Elle n'est pas gardée. Elle est méprisée comme vous avez
dit. Non,
méprisée.
Même dans la région?
Même dans la région. Mais méprisé dans un sens où peut-être, je ne sais pas, les médias, les radios locales qui sont là installées pour servir à ce genre de d'enseignement et vous savez, en France ou partout dans le monde, quand on veut lancer un tube, on bombarde les gens,
on médiatise.
Là, ça ne se fait pas. Quand une radio locale, qu'elle soit ici ou ailleurs, j'en connais quelques-unes, quand ils parlent de leur musique ou de leur patrimoine de la région, ils le passent comme ça. Et d'autres musiques nous envahissent. Ils nous envahissent d'une manière. Je suis musicologue, j'entends toutes les musiques, la musique occidentale. Je vous cite, par exemple, j'adore Béla Bartók, qui a fait une symphonie d'une musique de Djelfa, qui en fait Barbara, je pense.
Oui, mais là, vous parlez de Aïssal Djalmouni. Est-ce qu'il y a eu des émules, des enfants de Aïssal Djalmouni qui ont continué?
Est-ce qu'il y a une relève
Il n'y a pas de relève, vous savez. À Mloubegui, j'ai assisté comme ça en spectateur seulement. Je n'ai pas été invité, pourtant c'est à peu près ma spécialité, mais j'étais comme ça en spectateur. J'ai vu en faire un Maharajan Aïssal Djalmouni. J'étais là, j'étais sédéré. Aïssal Djalmouni était là, comme ça, mais l'étude, les conférences, l'étude, le faire apprécier cette musique, on l'a décortiqué un peu, en leur donnant, à la faire apprécier par les gens. On a amené un orgue fabriqué par un japonais, on fait Zagrita, de l'huile, où les rythmes étaient en dehors de la question.
Enfin, dénaturer les sonorités.
On amène une guitare, absolument. Et moi, j'ai posé la question à quelqu'un, un grand musicien à Alger. Justement, je lui ai posé la question. Vous avez pris l'Esloud Magrounia de Tebessa, qui est une merveille. Une merveille, c'est un chant extraordinaire, que ce soit dans sa poésie, dans ses mots. Et il a été chanté aussi en chahoui, pourquoi pas. Ils ont mis ça en boîte sur des trucs extrêmement électrifiés. Bon, c'est bien, c'est le modernisme, il paraît. Donc, dans le musicologue, le pauvre musicologue qui va venir après moi, quand il veut étudier ce genre de musique, qu'est-ce qu'il va écouter? Il va à la discothèque ou à la radio ou, partout, ou quelque part. Oui, chercher, il va prendre un disque ou un truc, qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter l'or. Là, il va dire, c'est bon. C'est bien fait. Il va dire, oh, nos ancêtres, ils sont formidables.
Oui, il va plus retrouver le traditionnel.
Absolument. Et c'est chose. Ça, c'est ce qui est dommage. C'est aux autorités ou peut-être aux médias ou je ne sais qui ou des sponsors, je ne sais pas, qu'ils fassent.
Mais qu'on écoutez, ait une, moi je vais vous dire le problème de la musique Chaabi qui a connu aussi des périodes très difficiles, mais elle a fait des émules et des gens ont sauvegardé ce genre et cette musique. Alors on a envie de s'adresser à la région et de dire que c'est à la région elle-même à faire tout un travail de transcription. Voilà, c'est ça.
Moi, je me suis proposé avec des gens qui peuvent analyser avec moi. Moi, je ne peux pas tout faire, par exemple. Nous avons besoin.
Oui.
Nous avons besoin de physiciens. Pour situer exactement ces gammes, les transcrire, les faire, les placer dans leur contexte, leur donner leur esthétique, leur ligne mélodique pour pouvoir les étudier et en sortir quelque chose. Quitte aux musiciens nouveaux de prendre ça et d'en faire des œuvres grandioses.
Yeah.
Voilà, Transhumance, c'est terminé. Nous tenons à remercier messieurs Yousfi et Masralji ainsi que madame Zinedi Amel et toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, sans oublier bien entendu notre ami Omar Kaderi, directeur de la radio de Tebessa. Donc à lundi prochain, nous irons cette fois à Tlemcen. N'oubliez pas Transhumance, tous les lundis de 23h à 1h du matin. Transhumance, une émission conçue et réalisée par Saïd Bouterfa.